Non, non, non.
Et non, et non.
Non, nous ne sommes pas des terroristes, surtout quand en avion, c'est pas terrible d'être un terroriste.
Parle pas si fort, on va t'entendre.
Voilà, nous sommes à présent à bord du vol 412 à destination de Bruxelles. Nous
exactement.
Allons nous rendre au Fosdem. Mais on ne pouvait pas ne pas assurer notre divergence numérique hebdomadaire, mes bons amis.
Et oui, donc on a mis les moyens exceptionnels pour pouvoir diffuser depuis cet avion. Et donc, depuis qu'on l'a... On est en phase de décollage imminente, donc voilà, bah, on s'envole pour Bruxelles, vous l'avez compris.
Voilà, le Fosdem 13e édition, on en parlera un petit peu plus tard. On va aussi parler de coworking, à savoir bien un nouvel espace de coworking, de travail collaboratif, pourrait-on dire, qui se trouve à Montpellier.
Tout à fait, nouvel espace collaboratif, et nous recevrons d'ailleurs avec nous Jean-François Vial et Thibaut Dusserre.
Et puis on aura au téléphone Philippe Aigrin, un des fondateurs de la Quadrature du Net, qui nous parlera de ce qui se passe autour de la Bibliothèque Nationale de France, qui a signé des partenariats public-privé qui font sérieusement grincer des dents. On parlera un petit peu droit et de bizarrerie juridique, à savoir, si vous faites une base de données, les contenus, vous auriez des droits sur les contenus. C'est quand même un petit peu se foutre de la gueule du monde, mais on est habitué à ce genre d'hérésie. Et puis sans oublier, évidemment, la pause musicale du jour, le film musical qui sera assuré par Vend Metaphors. Quel drôle de nom.
En fait, c'est un acronyme de son nom qui est imprononçable, donc c'est The End.
Donc, d'accord.
Voilà, donc on
donc nous ne le prononcerons pas.
Quelques morceaux de cet artiste.
Voilà, et puis tout de suite, évidemment.
Ah oui, on nous dit qu'il faut couper les micros parce qu'on décolle. Donc
on va écouter la
revue de presse, bien sûr.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 4, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc. Ça y est, j'ai dégelé.
Eh bien, le sommaire, Manu.
Eh bien, 7 jolis articles. On va vous parler d'éducation, d'oracle et de millions de dollars, le CNN numérique, la bataille des ingénieurs avec Obama, ça a l'air d'être assez rigolo, le président de l'OpenStack qui est interviewé, la Corrèze, en tout cas il y a des gens de Corrèze qui ne sont pas très contents contre leur conseil général, et pour finir, on va reparler encore une fois de Fleur Pèlerin et de ses demandes pour la filière open source.
01net Pro recherche prof d'informatique désespérément, un article de Serge Abitboul, Gilles Dovec et Colin de la Higuera.
Un joli article qui parle d'un sujet dont on a parlé pas mal de fois, mais là, d'une autre façon, j'ai l'impression.
Oui, c'est une position qu'on défend à l'april, mais on n'est pas les seuls, qui est qu'il faut apprendre l'informatique comme une discipline à part entière, de la même façon qu'on apprend les mathématiques, et ce qui permet de maîtriser son affaire et pas simplement d'être un utilisateur cliqueur, etc., et puis de s'adapter beaucoup mieux.
Mais là, pour le coup, il y a justement cette approche, non seulement sur le fait d'apprendre ça comme une discipline à part entière, mais aussi la manière de l'amener dans les établissements. Je trouve que c'est pas mal, parce que c'est un peu original.
Bah, là, en fait, l'auteur dit aujourd'hui, l'informatique telle qu'elle est enseignée dans les écoles, c'est généralement plus des TP qui sont faits par des profs qui sont là un peu par hasard, des profs de maths ou des profs des profs de français des fois. Le côté scientifique de l'informatique n'est pas du tout mis en avant. Il n'y a pas de personnes dédiées à ça, les personnes sont plus parachutées comme ça, il n'y a pas de formation des enseignants. Donc forcément, on ne peut pas faire de l'enseignement de l'informatique sans spécialiste d'enseignement d'informatique.
Voilà, donc il faut des profs d'informatique qui soient des profs d'informatique, ce qui peut paraître un peu simpliste, mais c'est pas évident. Parce que je retiens et que je trouve très intéressant comme idée là-dedans, c'est qu'il dit, on dit que l'informatique ça coûte cher, il faut renouveler le matériel très souvent parce que ça devient obsolète, etc. Il dit, mais non, ce qui manque vraiment, c'est des profs. Et c'est pas tant une question de matériel, puisqu'on peut effectivement travailler sur le matériel assez ancien, et il cite le logiciel libre à ce propos, et qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, quelles sont les bases, on sait s'adapter, et on peut après ça s'adapter à du matériel neuf et à toute une série de logiciels. Le devoir.com, 58 millions pour Oracle, un article de Fabien Deglise. Venise. Donc ça se passe au Québec.
Et oui, hein, encore le Québec, on les aime bien, à Montréal exactement.
Donc là, le problème, c'est bah, sur le dernier budget qui a été voté, il y a eu 22 millions de dollars de plus qui ont été alloués à Oracle. Pour des produits privateurs pour mettre en, bah, qui sont utilisés tous les jours dans les administrations. Ça râle un peu parce que bah, l'argent-là, certaines personnes aimeraient bien que ça soit investi ailleurs et pas dans des boîtes propriétaires, alors qu'il y a des solutions open source qui existent et qui sont beaucoup moins chères et beaucoup meilleures que tout ça.
Il n'y a pas de solution libre.
Si, il y a plein de solutions libres, tu rigoles. Moi, je mettrai en avant PostgreSQL, qui est largement aussi bien. Je remarque, c'est encore le même troublion, c'est Cyril Béraud, qui est président de la Fédération québécoise des communautés industrielles du libre. C'est un mec qui en dépote.
Voilà, on avait pas mal parlé l'année dernière hein, de toutes ces évolutions et de tous les enjeux au niveau du Québec. Il y a pas mal d'articles sur le sujet. Donc bah, là, plutôt mauvaise nouvelle de ce côté-là.
Oui, encore que là, c'est moins cher que le milliard qui avait été utilisé pour renouveler des licences Microsoft. Mais ça n'empêche, ça fait mal au cœur. Oracle est déjà archi riche. Il n'y a pas besoin d'en remettre une couche. Autant utiliser tout ça dans des compétences et des bons logiciels.
Télérama.fr, Benoît Thiolin. Le CNN doit éclairer le pouvoir, mais aussi les citoyens. Une interview par Jean-Baptiste Roche. Le CNN, c'est quoi ?
Alors, je remarque que tu n'as pas dit exactement, c'est le CNN, CNNUM, mais c'est un peu le bordel.
Juste hein. C'est juste imprononçable.
Ah oui, bah ouais. Et donc, pour le coup ?
Donc là, c'est le Conseil National du Numérique. Donc, c'est un conseil qui existait déjà, qui était un peu un fantôme depuis l'arrivée de Sarko.
Qui avait été créé par Sarko.
Qui avait été créé par Sarko en 2011, de mémoire, et qui avait été enterré à la va-vite. Donc, il avait été créé dans l'objectif, c'était suite au scandale Adopi, on va dire.
Ouais, la méga bouse.
Voilà, les législateurs se sont rendus compte que personne ne maîtrisait le sujet et ils ont demandé, histoire d'approfondir un peu au niveau technique, de créer le Conseil National du Numérique pour essayer de regrouper des experts et des spécialistes et enfin donner des avis
Des experts, à l'époque justement, le grand reproche qu'on avait par rapport à cette institution, c'est que les experts c'était uniquement des gens qui venaient du monde de l'entreprise, enfin des entreprises d'internet et d'informatique, mais des grosses boîtes et uniquement ce côté business entreprise. Donc dans l'article il y a cette idée que d'une part c'était très omnidirectionnel, en tout cas restreint, et qu'ils avaient peut-être autre chose à faire aussi
à droite,
que d'aller... il y avait cette orientation politique, mais après ça, effectivement, on peut avoir diverses orientations politiques, ou en tout cas, travailler avec un bord et l'autre à partir du moment où on est là pour faire du business, mais que voilà, le numérique, en général, c'est pas juste du business.
Alors là, ça s'est amélioré pour le coup, ça veut dire que là-dedans, dans tout ce truc, il y a maintenant plein d'associations et de gens de la société civile, c'est ça ?
Eh ben non, toujours pas, ils ont juste doublé la taille du Conseil National du Numérique, ils ont dû passer de 15 à 30 personnes. Par contre, on a toujours autant
Ils ont quand même un peu élargi le public.
Ils ont un peu élargi le public, mais ça reste toujours des industriels, ça reste des...
Pas que, t'as quelqu'un comme Stigler, par exemple, qui en fait partie.
Ouais. Oui, c'est un philosophe. Hein.
Oui. Donc ils ont quand même un petit peu élargi, ça on peut pas nier. Mais bon, l'article pose très bien la problématique en disant que le président du truc, il a mené la campagne de Ségolène Royal et plein d'autres choses avec le PS.
Désir d'avenir, c'était magnifique comme campagne sur Internet, c'était génial.
Que par ailleurs, donc il y a également un secrétaire général qui était un des proches conseillers de Fleur Pellerin juste avant. Et donc tout le truc, c'est de dire, bon, ok, vous avez élargi le machin, vous voulez faire quelque chose qui est censé donner des repères et tout ça, mais ça a l'air quand même hyper politisé dans votre sens ce coup-ci. Et donc voilà, les questions sont bien posées et les réponses
sont ce qu'elles sont, mais bon, on attend toujours d'avoir des représentants des associations dans ce genre de conseil, ça pourrait être super intéressant et peut-être enfin efficace.
Moi, je prédis, après le prochain scandale qu'on aura sur Internet, je doute pas qu'on en aura un.
Ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Au moins, ça a l'avantage d'exister. Et on a vu pendant les débats sur Adopi, etc., que les députés nageaient complètement. Donc peut-être, je sais pas, c'est peut-être le côté optimiste, mais peut-être que ça va au moins introduire un petit peu de compétences dans le domaine. Sled.fr, bataille ingénieur-politicien autour du code source de la campagne 2012 d'Obama. Un article de Cécile Dehesdin.
Donc pour une fois, là, c'est un truc un peu novateur. Je crois qu'on avait vaguement abordé le sujet, mais il y a des enjeux qui se pointent.
C'est une super illustration de la difficulté de faire comprendre les principes et les enjeux du libre. Bah, c'est une belle illustration de toute la difficulté.
Bon allez, c'est quoi le contexte hein ?
Donc le contexte, c'est pour sa campagne présidentielle, Barack Obama avait demandé à développer un site web, des outils de communication, des bases de données monstrueuses pour tout centraliser. Il y avait eu des appels à bénévoles et aujourd'hui, ces bénévoles-là demandent à libérer le code source du logiciel qui a été développé. Les amis de Barack Obama refusent un peu parce qu'ils n'ont pas envie de donner leur bébé à l'adversaire.
Parce que cette application, il a été pas mal dit que c'est ça qui lui avait offert la victoire. Ça permettait de profiler tous les gens qu'il y avait dans les fichiers et de savoir qui allait lancer, etc. Vraiment de faire toute une série d'études statistiques, sociodémographiques qui pourraient être pertinentes. Et il y a pas mal de gens qui ont dit que c'est ça qui a fait gagner Barack Obama. Et bah évidemment, ils disent bah, si on met ça en libre, la prochaine élection, les Républicains vont l'avoir, et donc c'est hors de question.
Mais, oui, mais il y a un bon argument en faveur de le mettre en libre, pour le coup.
Là, l'argument, c'est que, de toute façon, le code, aujourd'hui, s'il n'était pas publié, il ne pourrait pas resservir dans 4 ans, parce qu'il serait complètement dépassé techniquement. Et donc, si on ne le rend pas libre, dans 4 ans, on recommence tout à zéro, alors que si on le rend libre, bah, peut-être qu'il va y avoir des contributeurs, peut-être que ça va continuer à évoluer, on continuera à maintenir ce socle, et dans 4 ans, bah on pourra s'en servir, il sera toujours aussi efficace.
Et avec l'idée également que si c'est si bien que ça, les Républicains feront un truc à peu près équivalent, et que voilà, s'ils repartent de zéro, ils iront peut-être même un peu plus loin. Et puis bon, après ça, je veux dire, c'est des développeurs bénévoles qui ont fait ça, c'est leur code, et ils ont quand même une certaine légitimité à demander sa libération.
Ouais, ça peut être drôle en tout cas, j'avoue que ce serait génial que Républicains et Démocrates se mettent à collaborer sur une plateforme logicielle, aussi utile soit-elle pour l'un des deux, et ça pourrait être assez marrant à voir le résultat, parce que je crois que les Républicains, ils étaient vraiment mauvais, et qu'ils avaient, eux, monté une plateforme qui s'est écroulée, pour le coup, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les compétences, ils ont peut-être été trop ambitieux, et ils n'ont pas réussi à l'amener jusqu'au bout, alors que, pour le coup, les démocrates, eux, ils ont fait un beau truc, il semblerait. Je ne parierais pas que ce soit magnifique tout au bout, parce que ça a été fait dans l'urgence quand même, mais avec des résultats.
Ça avait été commencé à être spécifié assez tôt, etc., mais c'est vraiment la partie statistique, hein. Moi, il y a le site et tout ça, mais c'est vraiment la partie statistique qui a fait la différence. Enfin bref. Le Magaiti. Alan Clark, président de l'OpenStack Foundation, croit en la percée de l'Open Cloud, un article de Cyril Chausson.
Alors, on a déjà parlé pas mal d'OpenStack et de cloud.
L'OpenStack, on n'en a pas beaucoup parlé.
Tu crois peut-être plus en privé ou alors dans des conférences qu'on aurait enregistrées
on a enregistré une petite démo, donc une petite vidéo faite par Loïc Dachary.
Le grand ponte, Loïc Dachary. Voilà.
C'est très technique, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l'April, taper OpenStack et vous trouverez une démo, donc c'est sa présentation. Bon là, c'est la personne qui est en charge de la fondation OpenStack. Donc OpenStack, Nicolas, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est ?
OpenStack, c'est une plateforme, ce qu'on appelle aujourd'hui du cloud, donc même si ça cache beaucoup de choses derrière ce mot-là. En gros, ça dématérialise tout ce qui est les machines au niveau informatique.
Tu veux dire qu'elles disparaissent comme par enchantement ?
Elles disparaissent, elles se mettent dans les nuages, on ne sait pas trop qui va où et comment. Et voilà,
c'est magique, tu veux dire. En fait, avant, il y avait des ordinateurs, il n'y en a plus.
C'est pas qu'il n'y en a plus, mais on ne sait plus où c'est et on ne contrôle plus réellement. Voilà, on a besoin d'une machine, on prend la machine qu'on nous met à disposition, on n'a pas à s'occuper de faire l'achat, de savoir où elle est, de l'accabler.
En fait, c'est une mise en réseau de plein de serveurs.
Plein de machines.
Tu rigoles, mais moi, en tant que développeur, chef de projet web, ça m'est super utile et effectivement, je sais pas où sont mes machines, ce qui, comme vous pouvez le comprendre, est aussi un défaut.
Ça peut poser problème.
Mais en attendant, ce truc-là est pas mal utilisé et je remarque notamment parmi les initiateurs du projet qui sont derrière, il y a des gens comme la NASA et Wikimedia qui sont pas des petits, chacun à leur façon. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de monde et ça tape bien, quoi. Ça va fort. Alors, c'est une fondation, hein, pas une entreprise.
C'est la fondation OpenStack, mais avec derrière des très grosses boîtes.
Et avec du vrai logiciel libre dedans. Pas de l'open source.
Donc, en tout cas, on encourage pour aller comprendre un peu mieux tous ces enjeux. Et puis, peut-être que vous utilisez du cloud sans le savoir. Là, vous allez avoir un peu plus d'infos.
France 3 Limousin, les promoteurs du logiciel libre en Corrèze se fâchent rouge contre le Conseil Général. Un article de Christian Bellingard.
Alors, c'est un petit article, mais c'est quand même intéressant parce que c'est encore des gens qui se plaignent de...
Du Conseil Général qui a décidé de fournir des iPads aux collégiens.
Ouais, encore de la dépense.
Encore de la dépense inutile, encore dans du logiciel privateur et encore pire avec du logiciel qui vient de l'extérieur de la France, qui est là aux États-Unis. Et tout le monde lève un peu les boucliers parce qu'ils en ont ras-le-bol de payer des choses.
Il y a aussi l'idée que les tablettes, c'est un truc, c'est sympa pour aller sur Internet, regarder des trucs, mais c'est assez, on est dans une position assez consommateur, donc c'est pas un outil dont on va apprendre à se servir, qui va permettre d'apprendre à coder et de comprendre les choses. Donc c'est un côté très, très passif. Voilà. Mais en tout cas, c'est très bien, c'est un GUL, hein. C'est une association locale qui monte au créneau et qui manifestement fait un battage. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse. Ils ont organisé une conférence de presse pour mettre la pression au Conseil Général. Et bravo à eux, c'est essentiel d'avoir des gens comme ça qui se bougent et qui, localement, mettre la pression à leurs élus.
Et qui devrait passer.
Si vous êtes de Corrèze, allez les voir, allez vous mettre dans ce GUL, il n'y a rien de tel. Et puis dites-le à tous les Corréziens, il y en a sûrement qui pourraient nous écouter du côté de l'Élysée, je sais pas.
L'usine nouvelle, Fleur Pèlerin demande à la filière open source de se restructurer. Un article de Rida Louki.
Justement, on parlait la semaine dernière de l'écosystème du libre. Eh bien là, c'est en écho.
Et oui, alors c'est assez bizarre parce que l'article de Patrice Bertrand qu'on citait la semaine dernière où il expliquait tout l'écosystème des boîtes, des assos, etc. Finalement, c'est une réponse à la question qui vient maintenant. Donc peut-être qu'il voit dans le futur, je ne sais pas. Fleur Pèlerin regrette qu'il y ait plein d'acteurs qui se soient dispersés et elle voudrait voir un gros acteur de type Red Hat, une boîte qui gagne plein d'argent et qui soit voilà, un interlocuteur pour l'État.
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'écosystème open source et libre, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de PME. Et bah, Fleur Pèlerin, elle voudrait essayer de regrouper tout ça, de fédérer tout ça, donc sûrement aussi pour pouvoir mieux contrôler, pour mettre un peu un gouvernement qui tirera plus facilement les personnes avec deux personnes qu'avec 36 000 en face. Et donc, bah, elle demande à toute la filière open source de se restructurer, de se regrouper, et puis d'essayer d'aller battre. Bon, on va pas dire Red Hat parce que c'est un peu gros pour la France, mais c'est un peu ce genre d'entreprise-là qu'elle voudrait avoir, en tout cas sous la main.
Bah, si on parlait de libre, elle aurait peut-être l'April comme un interlocuteur privilégié. C'est déjà pas mal.
Oui, mais bon, on fait pas un milliard de bénéfices.
Attends, tu sais pas encore tout.
Des chiffres d'affaires. Voilà, moi ce que je note quand même dans l'article, c'est qu'elle demande que, je sais pas si c'est ces termes exacts, que ça se restructure, ce qui induirait que ça a déjà été structuré, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, je vais passer là-dessus. Après ça, moi ce que je trouve vraiment dommage là-dedans, c'est que justement tout l'intérêt du libre, c'est que des tas de gens et de structures éparpillées arrivent à travailler ensemble, et qu'on n'a pas besoin de faire une sorte de gros paquebot, de gros monolithes bien lourds
qui avancerait plus
et qui a une inertie terrible pour justement avancer, travailler ensemble. Et on sait que c'est les PME qui font l'emploi, c'est les PME qui font l'innovation, et les gros machins, c'est moins performant de ce côté-là. Et on n'a pas besoin d'avoir un gros truc à la tête de laquelle on va mettre quelqu'un qui potentiellement va pantoufler. Et, enfin voilà. Donc moi, je suis pas très convaincu par cette demande, quoi.
Bon. En attendant, je suis sûr qu'on en reparlera parce qu'elle fait les news depuis déjà quelques temps et va sûrement continuer. Et puis ça fait partie de ces grands sujets, hein. On est en France, l'administration, l'État a à voir avec toutes ces choses-là. Ça n'empêche, on verra tout ça la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ouais, salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie vivement pour cette revue de presse. À présent, l'homme au nom imprononçable qui préféra mettre un acronyme, THEN.D, THEND, et l'album s'appelle Metaphors.
Oui, c'est Norman Dostark.
Ah oui, super dur à prononcer.
Un allemand. Un allemand, donc c'est sur le net label Mix Galaxy Records, exactement, c'est la sortie numéro 16, et c'est en licence Creative Commons by NC 3.0. Thank you.
Et on écoutait donc The End, extrait de l'album Metaphor, c'était The Bane of Tadzio. Et à présent, eh bien, on reçoit nos invités. Jean-François Vial est accompagné de quelqu'un d'autre.
Oui, de Thibaut Dussert pour nous parler de coworking. Bonjour à vous, de nous accompagner sur ce voyage vers Bruxelles.
Bonjour.
Bonjour.
Alors moi je suis Jean-François Vial, je suis développeur web, libriste aussi, et on a créé un espace de coworking avec Thibaut et quatre autres acolytes du même acabit, donc développeur web, plus ou moins libriste. Bon, Thibaut a un Mac, mais on ne le voudra pas.
Je suis accepté quand même.
Ouais, comme quoi vous êtes tolérant.
Ils sont assez ouverts.
Ouais. Oui, oui, oui.
Vous connaissiez auparavant ou vous êtes connu comment ?
Un petit peu, on s'est croisés.
Dans le cadre du boulot, c'est vrai qu'on s'est croisés à quelques manifestations, à quelques rencontres. Et puis c'est vrai qu'on a été amené à être plus en contact il y a quelques mois de ça. Et on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de créer un espace dans lequel on puisse échanger, se retrouver. Et puis un espace commun où on puisse travailler. Et donc on a été 6 à se regrouper en association et commencer à travailler sur la mise en place d'un espace de coworking.
L'idée, alors c'est très à la mode, hein. On parle voilà, les hackerspace, les espaces de travail collaboratif, etc. À Montpellier, il y a quelques initiatives qui ne sont pas nécessairement des trucs ouverts tout le temps. C'est une des caractéristiques de votre projet, c'est-à-dire d'être un lieu permanent.
Exactement, c'est un lieu ouvert à tous, quelle que soit l'activité, c'est un lieu qui est censé être permanent, en tout cas le plus possible, en fonction de la disponibilité des gens de l'asso. Pour l'instant on n'est que 6, donc ça roule à peu près correctement, et au plus on sera, au plus on pourra ouvrir longtemps, même le week-end, on peut imaginer le week-end, on peut imaginer faire des nocturnes, on peut imaginer faire plein de choses. Donc oui, c'est ouvert tout le temps. Il y a deux initiatives comme la Fabrique, comme Kawenga, qui a été aussi un espace coworking pendant un moment. Mais effectivement, oui, c'était pas ouvert tout le temps, faute de moyens, faute de connaissances aussi, je pense, du coworking et du mode de fonctionnement des coworkers, qui vont pas forcément consommer le coworking ou l'espace de telle heure à telle heure, du lundi ou au mardi, et puis etc. C'est un peu travailler quand on peut, au moment où on en a besoin, et venir à l'espace, c'est juste l'espace, une sorte de petit îlot de calme et de studiosité, je veux dire, dans un monde de brut où on va se poser quand on en a besoin.
Là, vous êtes situé où ? Comment ça fonctionne finalement ?
Alors, on est 22 rue de la République, c'est juste devant la gare, donc dès que vous sortez du tram 3, vous y êtes. C'est juste à côté d'un une boîte qui loue des voitures, dont le nom s'appelle Louer une voiture en anglais, et d'un pâtissier, donc on est très bien entouré. On est au premier étage, il faut sonner à coworking, et puis vous entrez sans frapper, et vous installez, vous posez. Combien ça coûte ? Pour l'instant, on est en journée portes ouvertes jusqu'à la fin de la semaine. Et après, c'est un peu comme vous voulez, vous donnez ce que vous voulez en fait. Si vous passez moins d'une demi-journée, si vous passez une journée de temps en temps, ça va être dans les 12 euros. Si vous passez de 2 à 3 jours par semaine, ça va être du 100 euros par mois. Et si vous voulez une place sûre et certaine tout le temps, c'est du 175 euros par mois. Et là, vous êtes en full time, vous avez accès absolument à tout. Et quand vous voulez, vous avez une place sûre et certaine pour vous.
Bah là, au démarrage, l'idée, c'était, vu qu'on s'était regroupé à 6, c'était de tourner en autofinancement pour initier un petit peu le projet. Et puis, on a lancé, depuis début janvier, on avait lancé une campagne sur Ulule de dons, en fait, pour tous ceux qui voulaient participer au projet, pour commencer à meubler et aménager un petit peu l'espace. La campagne s'est terminée il y a quelques jours et on a réussi à récolter un petit peu plus de 1200 euros. En moins de 15 jours dans ces eaux-là. Voilà, donc ça a très très bien fonctionné et puis ça nous permet d'enclencher la première phase en fait de cet espace de coworking, puisque là on est dans ce local jusqu'à la fin du mois d'avril, enfin jusqu'au mois d'avril. Et puis l'idée après, c'est de trouver quelque chose de plus grand, de plus adapté par rapport à ce qu'on aura en fait, à la communauté qui aura pu se créer autour de ce projet.
Donc en fait, c'est de montrer qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui est là, qui est en place et qui est donc disponible pour ceux qui veulent participer, en profiter.
Exactement. Voilà. Exactement, c'est un petit peu aussi changer les habitudes d'usage du coworking. Montpellier, il y a une petite réputation qui dit que non, il n'y a pas de coworking parce que justement les espaces qui existent sont petits ou sont etc. Mais si, il y a du coworking maintenant, il y a un espace, donc vous pouvez venir tester, vous pouvez venir utiliser l'espace et même limite le personnaliser vous-même, étant donné que vous pouvez changer l'ambiance musicale qu'un des que vous venez, vous pouvez décorer l'espace si vous venez. Et l'idée, c'était de démarrer une communauté, de voir un petit peu quelles étaient vraiment les vraies forces en présence dans le coin et les vraies demandes en coworking. Et puis après, on roulera. Si on a plein de monde qui nous apporte les ressources suffisantes pour avoir un espace plus grand, ben on prendra un espace plus grand. Et puis si on reste à 6, une petite dizaine, ben on restera sur un petit local avec un peu de place pour les passants. Et voilà.
Ce qui est important d'initier le truc. Ce qui est important aussi, c'est que il faut préciser que c'est ouvert vraiment à tout type de profil. C'est pas seulement des gens qui font de l'informatique ou du web. C'est ça peut voilà, quel que soit le métier qu'on fait, on peut même être salarié et venir travailler dans l'espace de coworking. C'est un espace d'échange. C'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant.
Alors pour travailler, il faut des outils, hein, la plupart du temps. Donc outre, là vous parliez de meubler l'espace, donc de trouver des tables, des bureaux, des trucs comme ça. J'imagine qu'il y a aussi des ordinateurs. Puisque...
Alors non, l'ordinateur c'est le vôtre, c'est vous qui apportez votre ordinateur. Par contre on a une imprimante multifonction, vous pouvez imprimer. On a une machine à café, on a un frigo, etc.
Il y a
tout ce qu'il faut pour bosser, il y a l'internet.
D'accord.
Il y a tout ce qu'il faut pour bosser et il manque plus que vous et votre ordi, quoi, en gros. Voilà.
D'accord.
Il y a les tables, les chaises, il peut y avoir des écrans si... S'il y a besoin, il y a des écrans à disposition si vraiment vous avez besoin de vous connecter sur un écran. Mais l'idée, c'est que chacun vient avec son outil de travail qui est l'ordinateur, il s'installe et puis il commence à bosser librement, comme il veut.
Alors toi, tu as un Mac, si quelqu'un arrive avec un ordinateur sous Windows...
Ça ira.
On lui apprendra à installer autre chose.
Exactement. Il y a une Raspberry Pi aussi à disposition, si vous voulez tester.
Quel est mon intérêt, par exemple, à venir pour bosser alors que je pourrais bosser de chez moi, finalement ?
Eh ben, bosser de chez soi, moi, je fais ça depuis 3 ans maintenant. J'ai 2 enfants, c'est pas évident. Surtout quand ils sont en vacances, surtout quand c'est mercredi. Surtout que chez soi, en fait, on n'est jamais vraiment chez soi. Et on n'est jamais vraiment au bureau non plus. Donc, on n'a souvent pas d'horaire, donc on travaille souvent beaucoup trop. Dès qu'on a un rendez-vous, on ne peut pas recevoir des gens en rendez-vous chez soi, ou alors c'est un peu compliqué. Là, dans l'espace, vous allez au bureau, mais sans avoir de bureau quelque part. Et surtout, vous payez beaucoup moins cher qu'en ayant un bureau qui va être une pauvre pièce, que vous allez devoir meubler vous-même avec tout ce qu'il faut, alors que là, il y a déjà tout ce qu'il faut, il manque juste vous, tout simplement. L'intérêt aussi du coworking, c'est que même si vous travaillez tout seul sur un projet tout seul, hein, là, les 6, on travaille tous sur des projets différents, on n'a pas de clientèle en commun ou très peu. Par contre, on peut s'émuler, on peut échanger. C'est aussi tout l'intérêt du coworking, c'est vraiment l'échange. On a organisé un petit espace détente avec un canapé, des fauteuils, où on peut justement s'asseoir et échanger vraiment sur les difficultés du métier, sur, tiens, on a un client, on a un souci, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus ? Ou tout simplement, j'ai un problème en compta, qu'est-ce que je fais ? Et là, s'il y a une personne qui peut aider, on peut aider, on peut s'aider, on peut échanger, on peut faire évoluer les idées et on peut trouver des opportunités de business aussi sur place, hein, tout simplement. Mmh. Donc l'intérêt, il est pas que venir travailler, il est aussi venir échanger avec les gens qui sont là. Et ce qui fait vivre la vie d'un espace coworking, ce sont vraiment les gens qui l'habitent, hein, qui l'utilisent et qui le font vivre au jour le jour, qui le rendent vivant.
Ça pourrait aussi donner naissance à des projets qui naîtraient.
Tout à fait.
Dans l'espace de coworking, est-ce que c'est, on va dire, un des objectifs ?
Éventuellement, c'est, ça n'a pas été créé pour ça à la base, mais c'est vrai que vu qu'il y a tout un panel de compétences diverses qui vont être regroupées au sein d'un même lieu, il peut y avoir des projets qui peuvent naître et aboutir dans ce cadre-là. À terme, je pense que c'est ce qui se passera assez naturellement.
Donc tout ça se trouve à Montpellier, non loin de la gare, si je ne m'abuse.
Au 22 rue de la République.
Donc actuellement, vous êtes 6, vers une petite dizaine. À partir de quelle jauge vous seriez obligé de trouver un autre local plus grand ?
Une bonne vingtaine, là, on a commencé à être sacrément serré, et surtout dès avril. Dès fin avril.
Voilà.
Voilà. Donc venez, si vous voulez que l'espace perdure et avoir un espace confortable, venez, testez, regardez. Vous n'êtes pas obligé de venir tout le temps, toute la journée, venez un peu quand vous voulez. À partir de 9h15 jusqu'à 19h et un peu plus, des fois même je reste jusqu'à plus de 10h, 11h le soir. Donc vous pouvez venir à ce moment-là, dès que vous voulez ouvert, qu'il y a quelqu'un qui vous répond à l'interphone, il n'y a pas de souci, vous venez. Donc au plus on est de fou, plus on rit, et, évidemment... En plus, l'espace sera bien et grand et beau.
Et on retrouve toutes les informations sur coworkinmontpellier.org. C'est O-W-O-R-K-I-N. Et ben, on vous remercie d'être venu nous en
merci
parler.
À
et
vous.
Puis,
merci à vous.
Et puis, on souhaite qu'il y ait plein de gens qui déclenchent comme ça une communauté de coworkers à Montpellier. On enchaîne avec Norman Dauskart, qui est notre spécial guest musical du jour, avec un autre extrait de cet album Metaphors, sorti chez Mix Galaxy Records, et c'est Chromatic Sins, des péchés chromatiques.
En licence Creative Commons, n'oublions pas, by NC 3.0.
Thank you.
Chromatic Sins, c'est le film musical du jour. L'artiste s'appelle Norman Douskart.
On va se faire opérer.
Ouais, non, mais oui, mais ça, c'est. Mais les hôtesses sont au courant, tout se passe bien. Un petit whisky, s'il vous plaît. Et voilà, non, il n'y a pas de whisky dans les vols low cost. Il n'y a plus rien à bouffer, plus rien à boire. Il faut tout payer.
Ouais, bien sûr.
Même les hôtesses, il faut les payer. Alors, c'est vraiment l'enfer.
Aïe. Donc on est toujours sur Divergence Numérique, rappelons-le. Pour ceux qui nous écoutent sur les différentes fréquences, 93.9 pour Divergence FM, 103.3, 104.1, 102.0 pour Radio Escapade, et puis sur Radio Larzac aussi.
Et oui, depuis, depuis la semaine dernière, sur la Radio Larzac, que l'on salue bien. À présent, on est au téléphone avec Philippe Aigrin. On va parler de ce qui se passe avec la Bibliothèque Nationale de France et ses drôles d'initiatives de numérisation. Philippe Aigrin, avec nous au téléphone, je rappelle, c'est un des cofondateurs de la Quadrature du Net. Il est informaticien, chercheur et s'intéresse à tout ce qui concerne, on va dire, le domaine public.
Oui, alors peut-être je précise d'abord que, bon, évidemment, c'est pas au titre d'informaticien que je m'exprime sur le sujet, c'est plutôt en tant que spécialiste des politiques culturelles et des enjeux sociétaux de l'informatique et de la numérisation. Bon, pour aussi clarifier le sujet qui fait débat en ce moment, c'est pas le principe même de la numérisation. C'est le fait que là, on a choisi, pour numériser un certain nombre d'œuvres qui, comme vous l'avez dit, appartiennent au domaine public, 200 000 livres anciens d'avant 1700 et 70 000, 78 et 33 tours, qui peut-être n'appartiennent pas tous au domaine public, mais certainement en grande majorité, on a choisi de le faire à travers des partenariats publics-privés, qui sont financés par ce qu'on appelle les investissements d'avenir, qu'on appelait autrefois le grand emprunt, et qui reçoivent également un investissement de la part des partenaires privés. Mais là, on a choisi de leur concéder à ces partenaires privés une société qui s'appelle ProQuest pour les livres et une société qui s'appelle Believe pour les enregistrements sonores. On a choisi de leur concéder une exclusivité d'exploitation commerciale de ces œuvres pendant une période de 10 ans, tout en interdisant, enfin, la bibliothèque a accepté de s'interdire, sauf pour une toute petite proportion des livres, 5% des livres, même pas 3500 livres, donc c'est même moins que ça, de les diffuser sur ses propres services de diffusion sur Internet des œuvres numérisées, c'est-à-dire Gallica. Voilà. Ce qui veut dire concrètement donc que c'est quand même assez fantastique parce que on prend des œuvres du domaine public et par l'acte magique de la numérisation, on les transforme en des objets d'exclusivité privée. Et le plus beau de tout, c'est que à qui les partenaires privés vont-ils vendre l'accès à ces œuvres? Eh bien, ce sera essentiellement, vu leur nature, hein, donc des livres anciens et des enregistrements sonores de valeur patrimoniale, à des bibliothèques dont l'immense majorité sont financées par l'argent public, quoi. Mmh. Donc en fait, on fait un accord pour que le privé revende à l'État l'accès à des œuvres sur lesquelles il n'y a pas d'exclusivité, hein, sur lesquelles des œuvres qui appartiennent à tout le monde. Et c'est pour ça que dans une tribune que j'ai co-signée avec un certain nombre d'animateurs, bibliothécaires ou analystes des enjeux de l'importance culturelle du domaine public et de l'accès à la culture, on a choisi de faire ça sous le titre bientôt exproprié du patrimoine commun. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que les gens qui ont passé ces accords, ils ont fait comme si le domaine public, c'était quelque chose à l'égard duquel personne n'avait droit. C'était une chose dont on pouvait disposer comme ça pour la confier au privé avec un droit d'exploitation exclusif, en oubliant Ce que pourtant tous les acteurs culturels doivent savoir, qui est que le domaine public, c'est le fond, c'est le réservoir de notre culture librement utilisable dans l'éducation, dans la recherche, dans les pratiques culturelles pour recréer d'autres choses à partir de ça.
Il y a quelque chose de biaisé dans le fait de considérer que ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne.
Exactement. Moi, j'ai publié un billet pour essayer d'expliquer de façon, si possible, assez pédagogique qu'est-ce que ça veut dire le patrimoine commun. Patrimoine commun qui n'est pas seulement composé du domaine public, mais aussi composé de toutes les œuvres que des gens partagent volontairement et aussi de toutes les choses qui sont pas appropriables, les idées, l'information, les données. Toutes ces choses, ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas un droit de propriété au sens de la possibilité d'exclure les gens de leur usage. Tout le monde doit y avoir accès. Tout le monde doit pouvoir les faire fructifier, les exploiter, créer de la valeur à partir d'elles. Hein. Et là, en créant cette exclusivité, en fait, on prend pour donner à ce volet de la propriété qui est l'exclusivité à des acteurs privés, eh bien, on prend les volets les plus importants, c'est-à-dire le droit d'utiliser les œuvres et le droit de créer de la valeur à partir de ces œuvres, eh bien, on le prend à tout un chacun. Évidemment, une des raisons pour lesquelles c'est quelque chose qui peut venir à l'esprit de gens n'ont pas de, disons, d'armature morale ou culturelle en la matière, c'est que des acteurs privés, c'est des gens qui ont pignon sur rue, qui sont visibles, qui ont un accès aux démarches de pouvoir, alors que un intérêt complètement distribué comme l'accès au patrimoine commun, on peut espérer qu'il n'y aura pas de gens qui parlent pour lui, hein, pour cet intérêt distribué. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire et nous avons eu, je dirais pas la surprise parce qu'on l'espérait, mais la satisfaction de voir qu'il y avait presque toutes les associations de bibliothécaires et de documentalistes ont pris des positions analogues pour demander l'annulation des accords. Et de nombreux intervenants, commentateurs, les ont critiqués, que ce soit des économistes ou que ce soit des analystes de la propriété intellectuelle, dit-on, ou du droit d'auteur, ont réagi. C'est vraiment une démarche extrêmement surprenante et il est plus surprenant encore que le ministère de la Culture ou le Premier ministre aient laissé faire de tels accords.
Ce que vous dénoncez aussi, c'est que quelque part, il y a quelque chose d'absurde dans la politique qui consiste à permettre à des acteurs privés de faire payer avec une solide marge à l'État les investissements qu'il lui évite de faire sans pour autant avoir aucun des risques afférents.
Ouais. Alors, le degré auquel la marge sera solide, faut être rigoureux, on ne connaît pas le texte des accords. Mmh. Alors, c'est un des volets du scandale, c'est que l'État passe des accords avec des acteurs privés, il y a un député qui en novembre a posé une question parlementaire pour demander la publication des accords, il n'y a même pas eu de réponse à sa question, même pas pour dire on ne vous les communiquera pas. Hein. Mm-hmm. Donc on ne connaît pas le détail de ce qu'il y a dit sur les marges ou les prix ou les conditions dans lesquelles la commercialisation s'exercera, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une absurdité, ou bien les acteurs privés sont idiots, ils signent un accord qui n'est pas dans leur intérêt, ou bien l'État y perd par rapport à la situation où il aurait simplement fait un appel d'offres pour des fournisseurs de services de numérisation qu'il aurait payé lui-même. Mmh. Ça, c'est l'absurdité, disons, économique du principe de ces accords, qui a été dénoncé par un économiste qui s'appelle Mathieu Perrona. Mais il y a également, disons, une absurdité au niveau de l'impact économique global de tout ça. Parce que on a l'impression qu'il y a une conviction que la valorisation économique du patrimoine commun, ça ne passe que par les droits exclusifs. Hein, c'est-à-dire que si les choses étaient librement accessibles sur Internet, en numérique, comme il se doit pour des œuvres numérisées, eh bien, on n'aurait pas d'exploitation économique. Or, toute l'histoire du web montre exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça montre que c'est justement parce qu'il y avait des immenses quantités d'informations et de production, d'expression publique, de création qui étaient accessibles gratuitement, qu'il y a une économie qui représente, suivant ce que les évaluations, autour d'un tiers de la croissance entre 95 et aujourd'hui, s'est effectué à partir du web et du numérique. Et ça s'est passé dans un contexte où l'immense majorité étaient des œuvres qui étaient de fait ou de droit en accès libre.
Vous ne pensez pas que ce manque de transparence justement sur les accords, ils veulent pas en tout cas qu'on sache dans les détails, puisque c'est déjà de l'argent public, donc ça devrait être publiable.
Je veux dire, moi je ne fais pas de prévision sur le contenu des accords, je ne les ai pas lus, je ne les connais pas dans le détail, mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'obstination à ne pas les publier soulève la question que vous posez, quoi. On se demande, mais pourquoi ils veulent pas les publier? Je crois que si jamais il n'y a rien de contestable dans les accords, eh ben, ils auraient fortement intérêt à les publier vite fait. Parce que ça ouvre la porte à toutes les suspicions sur ce que pourraient conclure des analystes qui auraient accès au texte des accords.
Si ces entreprises privées ont des droits, on va dire, sur les contenus, le travail qui est mis derrière, c'est du travail de base de données. Et on a le sentiment que le fait de faire une base de données donnerait des droits sur les contenus de cette base de données, ce qui peut paraître assez hérétique. Est-ce que c'est le cas en France?
Alors, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas la moindre idée d'à quel titre l'exclusivité commerciale est confiée. C'est-à-dire, on peut imaginer que ça soit au titre de considérer qu'il y aurait une nouvelle sorte de droit d'auteur sur les œuvres du fait de leur numérisation. Ça serait vraiment scandaleux de considérer ça, surtout dans le cas d'œuvres, disons, dont la version numérique est essentiellement identique dans son contenu à la version physique. Donc ça serait vraiment scandaleux de considérer ça pour des actes qui vont être largement robotisés et automatisés. Bon. Ensuite, les données elles-mêmes ne donnent pas lieu à des droits exclusifs. Hein. Par contre, on a une directive européenne sur les bases de données qui s'appelle la directive 96-9 et qui fait en matière d'accès à l'information de l'Europe le continent le plus restrictif en ce qui concerne les bases de données, au sens où elle crée un espèce de droit, ce qu'on appelle sui generis, c'est-à-dire de sa propre sorte, sur les bases de données, même quand il n'y a pas de droit sur les données elles-mêmes, ou le contenu de la base de données, et même quand la base de données n'a pas une originalité telle qu'elle pourrait être couverte par le copyright, hein, par le droit d'auteur. Donc, est-ce que c'est à ce titre-là, ou est-ce que c'est simplement au titre de « c'est nous qui avons les œuvres, on fait ce qu'on veut avec », hein, qui serait une sorte d'appropriation privée du fait de la possession physique par la bibliothèque, qui à mon sens serait également scandaleuse, parce que autant il est normal qu'une bibliothèque protège ses collections, par exemple, contre le fait qu'elles puissent être abîmées par l'usage, autant il est totalement abusif qu'elles s'abstiennent de les diffuser, alors que la diffusion en numérique ne peut qu'en enrichir la valeur. Hein. Donc, je ne peux pas répondre précisément à votre question sur quel droit est utilisé. C'est une des choses qu'on aimerait voir en ayant accès aux accords. Mais de toute manière, la base juridique même de ces accords est contestable de toute une série de façons, au titre de la base juridique de donner l'exclusivité, et notamment parce que dans les lois qui définissent les partenariats publics-privés, il y a des exigences sur les conditions de passer, de donner une exclusivité dans un partenariat public-privé, et elles ont très fortement l'air de ne pas être respectées.
C'est quoi le rapport de force en ce moment? Où en sont les... Est-ce qu'il y a un dialogue entre la BNF et les associations?
Alors, je ne saurais pas forcément pour toutes les associations possibles. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, au niveau des réponses à la presse et aux médias, à ma connaissance, la seule chose qu'il y a eu, c'est des déclarations du président de la BNF à Livre Hebdo, qui apportaient à mon sens que des justifications extrêmement contestables au principe des accords, du genre la numérisation ira plus vite comme ça. On se demande bien pourquoi par rapport au scénario d'une numérisation sur appel d'offres pour des prestataires de services, et qui essaye, disons, de réfuter l'idée qu'il y a expropriation du domaine public ou privatisation par l'invocation d'une simple concession de services publics. Mmh. Bon, peut-être il y aura une expression plus détaillée, mais pour l'instant, ma connaissance, il n'y en a pas eu. Je pense que c'est exceptionnel que les associations de bibliothécaires et de documentalistes prennent parti d'une façon aussi ferme et aussi unanime. Ce sont des associations très prudentes, et très prudentes à l'égard de leur tutelle culturelle ou universitaire. C'est vraiment que là, il y a eu un chiffon rouge extraordinaire qui a été agité avec l'idée de créer des droits exclusifs sur le domaine public. Alors je pense que cette situation est intenable. On ne peut pas simplement passer en force en disant c'est comme ça et pas autrement. Mais si on s'en réfère à la simple rationalité, ces accords n'auraient simplement jamais dû exister. Il faut préciser d'ailleurs que ces accords, depuis que leur principe a été annoncé, ont été critiqués. Moi, j'ai eu l'occasion, dès septembre 2011, d'exprimer mon rejet du principe de ce type d'accord lorsqu'il portait sur le domaine public. Et des tas d'acteurs qui sont plus institutionnellement insérés que moi l'ont fait également. Alors, comment va se débloquer la situation? Je ne le sais pas. Moi, mon souhait, c'est que les accords soient annulés, que si l'État hésite à les annuler, au minimum, il les publie et il les gèle, tant qu'on n'aura pas défini et fait adopter comme une politique officielle des principes d'accessibilité du domaine public dans le cadre de la numérisation.
Pour terminer, la BNF se vante d'utiliser les profits réalisés par cette numérisation pour les réinvestir dans d'autres projets de numérisation dont on n'est pas sûr qu'ils soient pas, qu'ils conduisent pas eux-mêmes, comme vous le dites dans votre billet, à de nouvelles privatisations. Donc il y a quelque chose qui tient plus de l'ordre du fantasme que de la raison dans ce discours.
Alors, encore une fois, les montants des profits à prévoir, on ne les connaît pas. Si on y pense en termes de transfert des budgets de bibliothèques souvent pauvres, comme les bibliothèques universitaires, vers la BNF, même en supposant qu'ils existent, c'est quand même assez surprenant comme approche, hein. De toute façon, il faut aussi préciser que les gens qui ont pris position contre ces accords n'ont rien contre les acteurs privés, hein. Qu'il y ait des distributeurs commerciaux de la musique ou qu'il y ait des gens qui font des services au public et aux chercheurs pour l'accès aux œuvres, on ne demande pas mieux, mais ça n'a pas besoin de passer par l'appropriation indue du domaine public.
Philippe Irin, merci beaucoup. On restera évidemment à l'écoute de ce dossier dont j'espère qu'il va y avoir quand même des... Au moins, comme vous le dites, la publication de ces accords, ce serait quand même la moindre des choses. Ouais. Là, on a l'impression qu'on a mis en place un dispositif qui permettrait de faire payer l'argent public autant de fois que possible.
Oui, enfin, bon, encore une fois, on ne connaît pas les détails de l'accord, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'au passage, on prive le public de ce à quoi il a droit. Mm-hmm. Dès qu'une œuvre est numérisée, elle devrait être dans les mains de tous ceux qui veulent y accéder par Internet. Mais merci beaucoup de votre intérêt pour le sujet.
Voilà, Philippe Aigrin, qui était donc avec nous au téléphone. Je rappelle, c'est un des cofondateurs de la Quadrature du Net. Il est informaticien, chercheur, et s'intéresse à tout ce qui concerne, on va dire, le domaine public. Nous sommes toujours à bord de l'avion qui nous amène à Bruxelles, où se tient la 13e édition du FOSDEM.
Ouais, il nous reste à peu près une demi-heure de vol.
Voilà, un événement libre et non commercial organisé par la communauté et pour la communauté. Contrairement aux rencontres mondiales du logiciel libre, qui sont à la fois une rencontre de développeurs, mais aussi une manifestation au grand public, le FOSDEM, c'est vraiment le rendez-vous des développeurs
et des communautés.
Et des communautés.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une légère différence. C'est vrai que c'est sur 2 jours. Là, c'est le 2 et 3 février à Bruxelles. Et en termes de programme, c'est très, très chargé. On a plus de 488 événements qui se passent. Il y a des keynotes. Il y a ce qu'ils appellent des main tracks, qui consiste à une série de discussions organisées donc par thème. Hein. On a les systèmes, les operating systems, systèmes d'exploitation, voilà, de la sécurité, du développement web, de la robotique et aussi différentes choses. Ils ont fait une distribution mini-conf, puisque c'était une demande. Il y a aussi des salles de développeurs donc, qui sont spécialisées sur des thèmes, par exemple Apache OpenOffice, le cloud, FreeJava, Jabber, etc. Il y a aussi des Lightning Talks.
Des conférences éclairs.
Conférences éclairs, voilà. Qui sont, donc il y en a au nombre de 36 actuellement dans le programme et en même temps aussi des certifications, des examens de certification, notamment la LPI et la BSDGC. Donc il y a différentes sessions pour avoir donc des certifications sur place. Donc ça fait un événement très très chargé sur ces 2 jours.
Et on va essayer évidemment de faire le plein d'interviews lors de ce FOSDEM qui se déroule à l'Université Libre de Bruxelles, l'ULB, qui accueillera cet été les RMLL. Donc c'est aussi séquence repérage.
Exactement, séquence repérage, séquence prise de connaissance avec l'équipe bruxelloise, faire connaissance avec les gens qui organisent le FOSDEM, hein, puisque c'est quand même leur 13e édition sur place. Donc ils sont habitués à ce genre d'événements. Assez impressionnant puisque ça regroupe pas moins de 5000 personnes jour, donc c'est un énorme événement qui se passe donc à Bruxelles et toujours à Bruxelles.
C'est sur ces joyeuses nouvelles que nous allons rendre l'antenne et essayer de soutirer quelques breuvages à notre hôtesse.
C'est pas gagné.
Dont nous n'avons toujours pas soutiré le prénom, donc vous pensez bien qu'on est loin de lui soutirer autre chose.
Aïe aïe aïe.
De la culotte.
Déjà qu'elle a failli nous tirer les oreilles, surtout.
Oui, dommage, hein, si c'était que les oreilles. Enfin bon, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est un vieux fantasme que je partage avec Jacques Dutronc. On vous rappelle que les autres rendez-vous, c'est agendadulibre.org pour l'Hexagone, .be, .ch, .qc, .ca pour les autres pays francophones que vous aurez tout de suite reconnus à leur extension. On se quitte avec un dernier extrait de notre film musical du jour, Vend. L'album s'appelle Metaphors et c'est sorti chez le net label mixgalaxyrecords.com pour les intimes. On écoute Wild White pour se quitter en vous souhaitant une excellente semaine.
Excellente semaine à vous.
Et restez libres.
Soyez libres.